L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'EM, votre quotidienne sur Transistor. Nous sommes en direct de midi jusqu'à 13h et aussi en rediffusion le soir même à 18h. Supplanté par l'arrivée du jeu vidéo dans les années 90, le jeu de société aurait pu disparaître. Mais il se modernise et 30 ans plus tard, porté par le confinement, le jeu de société génère un peu plus d'un demi-milliard d'euros en France. Ce qui représente environ 33 millions de boîtes vendues, faisant de notre pays le premier consommateur de jeux de société en Europe. Véritable phénomène socioculturel, utilisé pour divertir, mais aussi pour éduquer, informer et sensibiliser, il cache cependant des fondations fragilisées par un statut injuste et insuffisamment protégé des créateurs et créatrices de jeux. Je reçois aujourd'hui Vincent Malcoste, qui est ludothécaire et aidant au devoir à l'Ulamir de Châteauneuf-du-Fou, et Christophe Coat, qui est auteur et développeur de jeux. Vous êtes aussi trésorier à la SAGE, la Société des auteurs de jeux, et aussi président de l'association 3D de Plouvorne. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ça fait combien de temps que vous jouez tous les deux, Vincent?
Alors, que je joue, je dirais... Allez, 35 ans.
35 ans. Et Christophe ?
Bravo, bravo. On n'est pas loin, lui et moi. J'ai dû commencer vers les 7 ans et la grand-mère. Donc, 40. C'est gagné.
Alors, c'est quoi la différence entre le jeu moderne et le jeu d'antan ? Vincent ?
Alors, la différence, moi, ce que je pense, c'est que les jeux modernes, en fait, il y a eu la base. Justement, les jeux d'antan, et ils se sont servis de ça, ils ont fait évoluer en fait le jeu. Aujourd'hui, dans le jeu moderne, on va retrouver des technicités justement d'antan, notamment par exemple, on en parlait tout à l'heure en off, mais par exemple, un jeu de loto, ils vont réadapter ces jeux de base. Et justement, pour apporter quelque chose de nouveau, un peu plus dans l'air du temps aussi, en fonction des thématiques, par exemple. Mais on commence à apporter de plus en plus de choses, enfin, en tout cas ce que je peux en voir. Ils s'adaptent, en fait, les auteurs s'adaptent à l'évolution technologique, parce qu'on va retrouver des jeux, par exemple, qui vont utiliser des applications, parce qu'aujourd'hui, les téléphones... Enfin, les smartphones, on en voit un peu partout, j'ai envie de dire. Et donc, on va découvrir, ils vont s'adapter pour proposer ces jeux et qu'on va pouvoir potentiellement appeler modernes, pour le coup.
On a beaucoup plus de mécaniques, hein, c'est vrai, Christophe ?
Ah, tout à fait. Bon, moi, ce que je dirais, il y a deux parties, je dirais, sur la question que tu poses. La première, c'est qu'effectivement, les jeux de société modernes ont changé plein de choses, notamment au niveau du design et de la charte graphique. Les jeux sont quand même super bien travaillés. Enfin, cocorico, surtout en France, on a des illustrateurs géniaux et talentueux. Et je crois que c'est vraiment la chose qui choque sur un ancien jeu et sur un nouveau. La première chose qu'on va voir, c'est la qualité graphique. Après, derrière, effectivement, on a plein de nouvelles mécas qui ont été soit améliorées pour être plus fun, soit créées. Hein, le deck building, maintenant, on connaît tous cette façon de créer nos paquets de cartes quand on est un petit peu joueur. Ben, il y a X années que ça n'existait pas. Donc voilà, il y a plein de petites mécas qui sont nouvelles et qui sont sympas. Par contre, il y a un petit quelque chose, j'y réfléchissais tout à l'heure, il y a aussi un regard qui est différent. Ou même une façon d'appréhender les jeux. Si je reprends, tout à l'heure, on parlait de 40 ans, j'ai commencé les jeux de société, je me rappelle faire les dames avec ma grand-mère. Tout le monde connaît ce jeu, il y a trois fois rien comme matériel, et on l'a pensé, en fait. On y a joué et rejoué, alors qu'on avait trois fois rien avec. J'ai l'impression que de nos jours, le jeu est beaucoup plus consommé. Les joueurs restent pas très longtemps sur le même jeu, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a... rien qu'en France, 1500 nouveaux jeux qui sortent par an. On n'a pas le temps de les exploiter, ni de vraiment aller au fond des choses. Enfin, moi, perso, de mon côté, j'essaie de vraiment acheter peu de jeux et beaucoup jouer aux jeux que j'achète. Mais je vois bien dans mon entourage que ça ne se passe pas du tout comme ça.
Ça veut dire quoi ? On utilise le jeu combien de fois avant de le revendre ou de le mettre en recyclerie, par exemple ?
Bon, bah là, après, je ne sais pas. On ne peut pas vraiment tirer une moyenne, mais je vois certains jeux chez les collègues qui sont joués que deux ou trois fois. Et c'est des jeux qui ont coûté certainement 50 ou 60 euros. Quoi.
Et c'est un prix moyen, ça, 50, 60 euros pour un jeu de société aujourd'hui ? Ou c'est un gage de qualité plutôt ?
Oui. Ouais, pour du gros jeu, oui. Pour du jeu familial, ça va plutôt tourner autour de
25,
30, 40, ouais, 25 pour les petits. Ouais. Ouais.
Il y a eu cette nouveauté aussi qui est, j'ai l'impression, qui est arrivée depuis pour avec le jeu moderne. Je veux dire, c'est qu'on a plusieurs catégories de jeux. Avant, le jeu, il était quasiment 100% familial. Maintenant, on a des catégories pour les enfants, pour la famille, pour les initiés et puis même pour les experts. C'est ça, hein, Christophe ?
C'est fait.
Hein, c'est ça, ouais. Clairement, ouais, c'est ça. Tu vas, suivant ce qui veut être abordé, enfin tu vas pas faire jouer un enfant de 3 ans sur un gros jeu, quoi. Enfin les jeux sont clairement adaptés en fonction. Donc effectivement c'est ça, comme tu dis, t'as la petite enfance, après t'as du jeu fun, tu vas avoir du jeu familial, ça dépend ce qui est recherché, quoi. Mais les fameux gros jeux. Voilà, alors, expert.
On invente même d'autres catégorie, voire sous-catégorie. Hein. On va parler du party game, le jeu d'ambiance. On va avoir même les jeux passerelles. Vous savez, le fameux familial plus, donc le jeu qui se trouve entre un public famille et un public expert, un peu l'entre-deux. Donc, en fait, on aime bien catégoriser les jeux, les choses d'une manière générale, quand même.
Ouais. Pourquoi c'est nécessaire de jouer ? C'est quoi les bienfaits du jeu de société pour un enfant, pour un adulte et puis pour un senior ?
Alors là, pour les enfants, je dirais, certains vont souvent dire pédagogique, et moi j'ai horreur de ça, parce que je considère que tous les jeux le sont. À partir du moment où on se pose sur un jeu, on est obligé de respecter les règles, d'attendre son tour de jeu, etc. Donc c'est déjà inclus. Pour un enfant, oui, je pense que ça va être surtout la découverte, passer un bon moment avec d'autres enfants ou avec ses parents. C'est vrai que j'ai jamais... eu la chance de connaître ça avec mes propres parents, mais je vois beaucoup maintenant de familles qui jouent avec leurs enfants en festival ou en ludothèque ou autre, et ça, je trouve ça vraiment super. Je suis persuadé que les enfants plus tard se souviendront de ces moments-là, quoi.
Vincent.
Les adultes,
allez-y.
Non, vas-y, Vincent,
attends-toi. Un mot sur les enfants ?
Moi je dirais les bienfaits du jeu sur les enfants apportent clairement un développement, donc des fonctions cognitives, donc à savoir l'attention, la mémoire, le langage, et au-delà de ça, on parlait tout à l'heure du confinement, de l'énorme progression du nombre de participants en termes de jeu. Ça a recréé du lien au niveau familial. Ce confinement finalement était bénéfique malgré tout, puisque les familles ont ressorti les jeux de leur armoire là, et puis ça a recréé du lien. Et je pense que les enfants ont besoin de ça à travers le jeu, pour moi c'est le jeu à ce niveau-là était très très bénéfique.
Alors les jeux pour les adultes, en quoi c'est bénéfique pour un adulte de jouer qui a déjà une vie bien 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 chargée avec si possible les enfants, le travail, le stress, la pression sociale. En quoi c'est bénéfique, Vincent, de jouer quand on est grand ?
Ça permet de lâcher prise aussi déjà, parce que parfois suivant le taf, il y a une certaine pression et jouer, se retrouver entre amis. Ça permet justement, autour d'un verre ou pas d'ailleurs, mais toujours est-il que ça permet de se vider un peu la tête. Ça permet, si on se retrouve dans une asso, de créer du lien, de voir d'autres personnes aussi, justement, autour du jeu. Et on peut aussi, le jeu, je dirais qu'en fait, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a des compétences qui vont ressortir de certaines personnes. Des personnes qui peuvent paraître comme ça timides à prime abord, on va leur sortir un jeu un peu plus fun, etc. Et ben justement, on va aller voir s'éclater, et puis en fait, on va dire, bah, et donc Monique, ou je sais pas, enfin peu importe le prénom, mais, ouah, tu sors d'où toi ? Il y a une autre personne en toi, ou qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ouais. Non, non, c'est, enfin, moi je trouve ça extraordinaire, le jeu, je le conseille à tous.
C'est quelque chose que vous constatez aussi, Christophe ? Oui.
Oui, bah, tout à fait, le côté détente ou autre, ça c'est une certitude. Je pourrais éventuellement rajouter au propos de Vincent le côté un peu on se surpasse. Donc là, c'est plutôt vrai dans les gros jeux, les jeux un peu experts, où on peut se retrouver avec d'autres on va dire d'autres cerveaux autour de la table, et puis bon, va falloir réussir à faire mieux qu'eux. C'est pas toujours évident. Donc il y a un petit côté un peu compétitif éventuellement qu'on peut tirer avec les jeux pour adultes.
Est-ce qu'il y a aussi un petit côté, on va dire, on rallume des vieilles cases qui sont dans notre cerveau, qui ont été un petit peu oubliées, puis qui sont un petit peu éteintes. Je pense notamment à tout ce qui est mathématique. Le jeu de société, c'est quand même quelque chose de très, très, très mathématique. Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de tactiques, de réflexions. Est-ce que, quelque part, ça peut aider un petit peu à enrichir notre cellule grise ?
Vincent. Moi, complètement. Ouais, moi, par exemple, j'ai fait littéraire, donc les maths étaient loin de ce que je faisais. Maintenant, j'ai quelques petits regrets de ce côté-là. Mais le jeu de société, effectivement, va m'aider à refaire un petit peu de calcul ou au moins d'optimisation, etc. C'est pas forcément que du maths, que des maths plutôt. Ça va être aussi de l'optimisation, de la gestion, ou ce genre de compétences.
Vincent, il fait de l'aide au devoir. Est-ce qu'il y a une corrélation qu'on peut créer entre le jeu de société et l'aide au devoir ?
Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me sers du jeu de société en fin de séance. La séance dure 1h30. Et justement, pour montrer aux enfants ce qu'on a fait pendant l'heure, ils ont acquis à travers le jeu. Je vais prendre par exemple le jeu du Picomino, au départ, pour installer le jeu, il faut mettre par ordre croissant les nombres. Rien que ça, quand on est sur du CPCE1, ceux que j'ai n'ont pas acquis cette compétence pendant le temps scolaire. Et bah, du coup, on travaille dessus pendant 1 heure, et après, en fait, je leur présente le jeu, et ils se rendent compte. En fait, ça vient tout seul. Et le jeu, ils ont cette fierté en fin de séance d'avoir acquis justement cette compétence recherchée à la base par l'école, par l'éducation nationale. Et je pense que au-delà de cet exemple, oui, il y a plein de jeux où on fait des maths, ne serait-ce que pour calculer les points. En fait, enfin, à la fin, pour savoir qui a gagné, on s'en sert clairement à peu près tous les jeux, je pense. Dès qu'il y a, en tout cas, il y a la compétitivité, se servent des maths.
Il y a d'autres matières qui sont un petit peu utilisées comme ça ?
Le français, pour le coup. Mmh. Que ce soit pour de la lecture, s'il faut lire un point de règle, ou s'il faut lire des cartes, la lecture, oui, peu importe. Ouais. Enfin, après, suivant les jeux, on peut aller exploiter, là c'est parce que j'ai Timeline en tête, on va du coup aller sur l'histoire. Là, j'ai pas d'autres.
La géographie, peut-être, mais... aussi, où il y a des plateaux avec la carte de l'Europe ou choses comme ça.
Oui, c'est ça. Il y a le jeu BioViva là, qui me vient en tête aussi là, par rapport à la géographie. Et du coup, aussi la sensibilisation d'ailleurs à l'écologie, etc. Enfin voilà.
Ça va y avoir de la motricité aussi, tout ce qui est jeu d'adresse ou autre.
Ouais, c'est ça. Suspens. Il y a plein de choses, clairement.
Est-ce que ça marche aussi, le jeu en entreprise ? Qu'est-ce que ça peut apporter ?
Alors là, ça marche même beaucoup. Il y a pas mal de CE qui font des demandes, par exemple, de jeux. Alors, ils tournent assez souvent vers les escape games, quand même, parce que ça a quand même bien percé au niveau du grand public. Il y a des boutiques d'escape games un peu partout maintenant. Mais même au niveau du jeu de société, ça marche assez bien aussi, éventuellement, en entreprise, surtout, du coup, les jeux coopératifs. Le but va être de resserrer, de faire en sorte d'améliorer la cohésion de l'équipe.
Alors, c'est quoi exactement un escape game ?
Alors, pour le coup, comment expliquer ça ? Imaginez, vous arrivez entre les 4 ou 5 amis en général dans un escape game. Vous allez avoir un accompagnateur qui va vous présenter une sorte de scénario. Alors, ça peut être multiple. Hein. Bien souvent, le but est de sortir de la salle. Donc, vous êtes enfermé, peut-être, je ne sais pas, dans une prison ou enfermé par un psychopathe. si vous ne sortez pas au bout de trois quarts d'heure, eh ben, vous êtes mort asphyxié ou quelque chose comme ça. Donc, de là vont découler plein de recherches, de découvertes, de sortes de petits casse-têtes, ce genre de choses.
Et donc, sur le fond, qu'est-ce que ça apporte ?
Ben voilà, comme je disais, de la cohésion. L'équipe en question va devoir s'organiser. Donc, peut-être va y avoir deux ou trois personnes qui vont se charger de fouiller. Une personne qui va se charger plutôt de déceler de résoudre les enquêtes, enfin, pas les enquêtes, mais les mystères. Et l'autre personne va peut-être se charger justement de faire un peu le rôle de chef ou de répartir un petit peu les efforts à gauche ou à droite.
Et ça peut permettre de résoudre des problèmes au sein d'une équipe ?
Résoudre les problèmes, ça je sais pas, mais en tout cas renforcer l'ambiance autour de l'équipe, leur sortir un petit peu de son cadre de travail habituel, je pense que c'est du bénéfique dans tous les cas.
Vincent ?
Ouais, moi je pense que du coup ceux qui font appel justement à des escape games pour créer du team building, une fois qu'ils font le bilan, justement ça permet de voir comme tu disais, les personnalités qui vont ressortir. Il va y avoir celui qui va driver l'équipe. Ensuite, il va y avoir justement ce que j'appelle, entre guillemets, les petites mains qui vont justement aller chercher les indices à droite à gauche. Ensuite, il va y avoir les têtes qui vont résoudre les énigmes. Et tout ça, justement, là, ces 4-5 personnes, après, peut potentiellement avoir un impact sur leur entreprise. Parce que ils vont prendre conscience justement, je vais appeler ça des compétences pour le coup, qu'ils ont, et peut-être qu'ils savaient pas qu'ils avaient ça caché en eux. Et je pense que l'escape game permet de se rendre compte de ça, en fait.
Je voudrais parler avec vous du côté un petit peu obscur du jeu de société moderne, mais je voudrais d'abord mentionner trois choses. La première, c'est que la particularité du jeu de société moderne véhicule beaucoup de choses, notamment de vraies recherches scientifiques comme Terraforming Mars. Il y a de l'histoire comme Iki, qui explique l'histoire du commerce à Tokyo à l'ère Edo. On l'a dit tout à l'heure, la biodiversité. Et puis on a des jeux qui s'appuient sur des œuvres littéraires comme Red Rising, qui est inspiré de l'œuvre de Pierce Brown. Et le jeu dit ceci. Alors, j'ai un petit peu de lecture de la notice. La structure sociétale basée sur la couleur du monde dystopique de Red Rising est une allégorie des luttes raciales du passé et du présent dans le monde réel. C'est une illustration de ce qui peut arriver lorsque les gens sont jugés par leur couleur de peau plutôt que sur la personne en elle-même. Et puis, on a aussi, en deuxièmement, qu'on peut acheter des jeux de société avec le pass culture. On sait aussi, en troisièmement, que l'As d'or est une cérémonie qui récompense... Alors là, je vais citer le FIJ, donc le Festival International du Jeu. Donc lui, il récompense ce qui stimule l'imaginaire du joueur et qui contribue à faire du jeu un véritable objet culturel qui enrichit notre patrimoine. Alors, depuis le début de l'émission, on a donné, je crois, tous les termes qui caractérisent un produit culturel. Et pourtant, le jeu de société n'en est pas un. Pourquoi ?
Eh bien... Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, et pourtant on en avait parlé un petit peu avant l'émission, mais je pense que ça a été rapproché des jeux, des jouets à l'origine, et que l'un des problèmes vient de là. Peut-être que, je ne sais pas si vous savez, vous rappelez anciennement, si je prends pareil, une génération allait de nos grands-parents ou de nos parents, jouer c'était un petit peu perdre son temps. C'était ne pas être productif, c'était ne pas gagner de l'argent. Peut-être qu'il y a quelque chose d'historique à chercher de ce côté-là. Maintenant, effectivement, avec la Société des auteurs de jeux, on se bat un petit peu pour ça, pour que le jeu soit reconnu comme secteur culturel à part entière. Et c'est loin d'être facile. Il y a des démarches. Alors, je peux même annoncer qu'il y a normalement un rendez-vous prévu avec quelqu'un de très haut placé dans le gouvernement prochainement, mais c'est pas encore officiel, c'est encore à confirmer, mais ça y est, ça bouge. On a réussi à faire en sorte que que à l'URSSAF, lorsqu'on déclare nos revenus, maintenant il y a une case, on peut cocher auteur de jeux de société. Avant c'était pas possible, ça n'existait pas. Donc on était classé entre guillemets pour rire entre les clowns et je sais pas quel autre métier, mais qui avait rien à voir quoi. Donc ça progresse, mais c'est pas encore fait. Maintenant les répercussions de ça, elles seraient multiples effectivement déjà. La TVA, au lieu d'être à 20%, serait à 5%. Et ça, c'est énorme. Alors, hélas, je ne voudrais pas non plus dire que cette TVA ferait baisser le prix des jeux. Je suis à peu près sûr que tout le monde dans la chaîne des jeux de société chercherait à grappiller un petit peu et à défendre son beefsteak pour avoir un petit peu plus d'argent. Donc, ouais, je ne sais pas ce qu'il adviendra si jamais un jour on arrive à percer de ce côté-là. J'espère que ce sera pour le mieux pour les auteurs, évidemment, mais aussi un petit peu pour les autres. Ouais, j'ai quelques doutes à ce sujet-là, hélas.
Parce que là, actuellement, ça se passe comment avec les éditeurs? Comment un auteur de jeu est rémunéré? Comment ça se passe dans le process?
Bien souvent, on signe un contrat en tant qu'auteur, un peu comme un auteur de livre. On a une somme d'avance à négocier. Et ensuite, ce sont des royalties.
Donc, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre boîte de jeu, votre prototype, vous arrivez dans un bureau où il y a 5-6 personnes, ils étudient le jeu dans tous les sens, ils vont vous faire une proposition pour racheter votre jeu, c'est ça?
Ah ouais, ça c'est la voie classique. Hein. Il y a plusieurs voies d'édition maintenant de nos jours, mais la voie classique avec les éditeurs, c'est ça, on cède nos droits à l'éditeur, qui ensuite, en général, en nous consultant, peut éventuellement changer quelque chose, comme le nom du jeu, la thématique du jeu, voire même quelques petits points de règle. Alors, normalement, c'est avec l'accord de l'auteur, mais bon, c'est pas, j'imagine que ce n'est pas toujours à 100% le cas. Mais il faut aussi se dire que c'est l'éditeur qui va gérer toute la partie illustration en embauchant un illustrateur pour y travailler. C'est lui aussi qui va faire la production et c'est lui qui va en faire la communication. Donc, il est quand même normalement assez bien placé. C'est lui qui connaît normalement comment le marché évolue. Est-ce que le produit va plaire, le nombre de boîtes qu'il va en tirer. Enfin bon, bref, je pense que c'est les mieux placés que l'auteur de ce côté-là pour savoir si effectivement quelques petits modifs sont pour le bien commercial du jeu ou pas.
Ouais, je sais pas. En fait, c'est assez mitigé là, mon avis, parce que je me retrouve un petit peu dans la même situation. J'ai eu l'occasion de créer un jeu, de le présenter justement au Fige à Cannes il y a quelques années maintenant. Et en fait, là-bas, ils proposent des speed dating qui permettent de rencontrer les éditeurs. Et j'ai eu l'occasion donc d'en rencontrer. Et j'ai vu de tout en termes d'éditeurs. J'ai vu une grosse boîte qui voulait, en gros, qui était en train de compter le nombre de cartes, qu'est-ce que ça allait lui coûter. Il était déjà prêt à l'éditer, en fait. Il n'a même pas entendu parler du jeu, mais il était juste prêt à l'éditer, vous voyez. Et comme c'est un gros truc, qu'il gagne de l'argent ou qu'il gagne pas de l'argent, il savait très bien qu'il allait gagner sur d'autres boîtes, en fait. Donc en vrai, voilà. Mais après, il y avait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Croc. Alors Croc, pour ceux qui connaissent dans le jeu, c'est quand même une grosse pointure. Et à la base, on devait pas le voir, et puis finalement, il est venu quand même à notre rencontre, et il nous a mis la tête à l'envers, en fait. Il nous a juste dit, si vous inversez ces deux points de règle, qu'est-ce qui se passe? Votre jeu, qui est à la base un jeu type allemand avec des grosses règles, en inversant ces deux points de règle, ça devient un jeu fun, familial, etc. Et là, on a tout changé, on savait plus trop où donner de la tête. Et lui, ce qu'il nous a dit, par exemple, c'est ce que tu disais, Christophe, c'est que la thématique, pourquoi il ne s'est pas inscrit à la... pour le speed dating, c'est parce que justement la thématique lui convenait pas. C'était pas ce que eux produisaient, en fait. Donc du coup, on a dit ouais, ok, on va réfléchir de nouveau à notre jeu. Aujourd'hui, notre jeu, il est dans un tiroir. et voilà, en fait. Enfin, c'est pour ça, c'est ce que tu dis. Les éditeurs, on trouve de tout hein, sur le marché aujourd'hui.
Et c'est super difficile d'éditer soi-même son propre jeu.
Ah oui, là pour le coup, si on parle d'auto-édition. Ça veut dire que la personne va être auteur du jeu, va être designer ou illustrateur, va être éditeur, va être producteur, va être distributeur et va être revendeur. J'ai pas fait le total, mais ça doit faire 5 ou 6 métiers. Croyez-moi, moi perso, c'est une voie sur laquelle j'ai même pas eu envie d'aller, parce que je sais bien que ça allait être impossible au niveau compétences, au niveau temps, et même au niveau, finalement, rentabilité derrière. J'ai déjà mes métiers à côté. Là, au moins, je parle de CDI et de revenus sûrs. Je peux pas tout lâcher pour quelque chose d'aussi risqué que ça. Mais bon, certains le font. Hein. C'est, à mon avis, assez rare qu'il y ait du gros succès en auto-édition. Là où souvent ça coince, c'est la distribution. Hein. La distribution, c'est envoyer le jeu produit en boutique. Il faut gérer les transports, il faut gérer les stocks, et ça, c'est pas facile.
Merci beaucoup, Christophe et Vincent, d'avoir participé à l'émission.
Merci.
Merci.